18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver en ce dimanche, 26 juin 2022. C'est le début officiel des Jeux méditerranéens. Quand je parle officiel, en parlant bien sûr de football, puisque hier c'était la cérémonie d'ouverture. Un mois de juin que maintenant vous avez l'habitude de vivre régulièrement avec ce qu'on appelle le marché des transferts, la situation de nos clubs, qu'ils soient en Coupe d'Afrique des clubs ou bien on va dire pour les sélections, rappelez-vous avec ces fameuses éliminatoires. On parle même, selon une dernière enquête que j'ai pu lire sur un report de la CAN en Côte d'Ivoire, en cause un retard sur certaines infrastructures. Alors tout cela pourrait conduire à un chamboulement à tel point que également on parle d'un gros souci lié au climat. Si je vous parle ainsi, c'est qu'à un moment donné, au niveau des instances, on a voulu revenir sur ce que l'on appelle dans le jargon la normalité. Or, il se trouve que des conditions climatiques ont fait que le dérèglement climatique conduirait, je dis bien conduirait, donc je reste toujours au conditionnel, à une compétition en hiver. C'est-à-dire que lui, que ce soit vers l'été 2023, elle pourrait même être décalée à janvier 2024, car il serait impossible, tout simplement, de jouer à cette période de l'année. Voilà, je voulais juste vous donner ces petites informations avant de démarrer cette émission, vous allez voir. Et en deuxième heure, nous irons faire un petit tour ici en région parisienne avec des personnalités connues dans le milieu du sport pour une grande cérémonie de récompense et de mise en valeur des grands sportifs algériens qui ont contribué au sein de l'immigration à l'épanouissement de l'Algérie à travers le monde. Et ce sera avec Ahmed Djemaï tout à l'heure à partir de 19h. On fera ça par téléphone. Bien entendu, pour passer cette soirée, c'est vrai que c'est un petit peu spécial. Tout le monde n'est pas présent, mais fort heureusement que voilà, je vais passer cette heure-ci avec Fodil, qui avait déjà participé à la première émission. Le voici à nouveau pour la seconde. Bonsoir Fodil.
Bonsoir Mohand, bonsoir à tous.
Comment vas-tu ?
Ça va super, c'est toujours un plaisir d'être là parmi vous. Et merci pour l'invitation aussi.
Tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, enfin je dirais même ces deux dernières semaines, dans l'actu foot.
Oui, bien sûr.
Qui nous a tous marqués, avec notamment, je crois qu'on s'était quitté avant le résultat de Algérie et Iran, avec ces petits jeunes qui sont venus un petit peu, peut-être chambouler la hiérarchie.
Bouleverser beaucoup plus la hiérarchie.
Alors, t'en penses quoi toi ? Puisque on s'était dit que, allez, on va juste faire un test, et finalement le test c'est un vrai concluant.
Pour ma part, je pense que la relève est déjà là. Quand on voit des petits Brahimi, des petits Amoura qui confirment. Et Amoura, ce que j'aime bien chez lui, c'est un attaquant qui peut évoluer en pointe et qui peut aussi évoluer sur les côtés. On l'a vu face à Lyon, il est rentré, il a cette faculté de toujours permuter, de percuter aussi. Et ça fait plaisir et ça donne des solutions à Djamel Belmadi.
Alors, ne pas oublier également, faut-il que dans cette équipe, quand on regarde bien sa composition, savoir des joueurs pour beaucoup qui découvrent la sélection.
Ce sont des jeunes joueurs qui pétrissent de talent.
Mais face à une sélection mondialiste, hein. Attention.
Oui, face à une sélection, parce que ce qui est bien avec eux, quand ils sont rentrés sur le terrain, on a l'impression qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. On avait vu ces automatismes. Ce qui rend vraiment la particularité de ce stage, parce que c'est un stage qui a duré pendant plus de 15 jours. C'est-à-dire, Djamel Belmadi a réussi quand même à créer cette cohésion entre les joueurs. Et quand on voit la défense centrale avec son alignement, on voit moins, par exemple, on voit moins d'espace. Et c'est ce qui fait la touche de Djamel Belmadi est présente. On la voit que ça soit sur le terrain, on la voit aussi en dehors du terrain, parce que les joueurs se donnaient à fond. Ils savaient qu'ils avaient 3 matchs dans les jambes pour confirmer. Les places maintenant sont extrêmement chères en équipe nationale, notamment peut-être avec l'arrivée de Aouar. Le retour de Sofiane Feghouli, qui va reprendre la compétition l'année prochaine. Et j'imagine qu'il va revenir à la sélection, même s'il est un peu âgé, mais j'imagine qu'il peut...
Il a moins de... Sofiane aujourd'hui a moins de percussions quand même. Hein. C'est pas le Sofiane que j'ai connu.
Oui, mais un Sofiane Feghouli, on a toujours besoin de lui, surtout en Afrique.
Alors peut-être, moi je dirais que je suis d'accord avec toi sur Sofiane Feghouli. Peut-être pas sur un match complet.
Non, on avait dit la même chose avec Guedioura. Rappelle-toi, oui. En 2019, bah oui. on avait dit la même chose. Ouais. Je me rappelle quand Jamel Belmadi l'a convoqué, il est tombé dessus, on le critiquait, on disait mais il n'avait pas sa place en équipe nationale, qu'il a fait son temps, qu'il n'a pas le niveau. Mais quand on regarde la CAN qui nous a sorti, je pense que Sofiane Feghouli aussi peut rendre service, même si notamment avec l'arrivée d'un Houssam Aouar, il y a aussi peut-être le retour d'Andy Delors. Je veux dire, les places en équipe nationale algérienne seront extrêmement chères. En défense, on a un Touba qui peut évoluer en tant que défenseur central, en tant qu'arrière gauche. Le Zazatkra aussi, il confirme, même s'il est très jeune, mais il confirme sa présence. Le retour de Youssef Attal, Zafane aussi qui a repris service. Et j'imagine que les places seront extrêmement chères au mois de septembre.
Alors justement, dans cette préparation, même si on sait qu'en principe, je dis bien en principe, la saison footballistique est terminée, mais on est arrivé à un point aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça se termine. Il y a toujours une espèce de continuité, et grâce notamment au mercato, ce fameux marché des transferts, certains joueurs qui avaient des situations un petit peu compliquées et qui essayaient de trouver du temps de jeu ailleurs parce que Jamel Belmadi va exiger quand même de ses poulains d'avoir du temps de jeu dans leur club, mais surtout de choisir un projet sportif. Si c'est pour partir jouer, ne serait-ce que dans un championnat où malheureusement le niveau n'est pas ce qui était escompté, on l'a vu notamment avec le cas Bardad Bonja, sur lequel Jamel n'a même pas parlé. Déjà sur les trois derniers matchs, il ne l'a pas reconvoqué. Et là, encore plus, même dans ses conférences, il ne parle jamais de Bounja.
Mais Bounja, pour l'instant, les portes de l'équipe nationale ne lui sont pas fermées. Et on l'a vu.
Mais il reste quand même une énigme.
Il reste une énigme, mais Jamel Belmadi a des raisons. A ses raisons, parce que quand on voit Simani, pour l'instant, il est performant en équipe nationale. Amoura confirme. Et avec le retour d'Andy Delors, je vois loin Bardad Bounja revenir, à part s'il reprend confiance en lui et qu'il regagne la confiance qu'il avait avant. Et on l'a vu cette semaine, notamment quand on parle de projet, on a vu Mondrea qui a signé à Cannes, Bedran par exemple qui va partir à Damas Club, on a vu aussi Yassine Brahimi qui change carrément de club, qui s'engage à Rarafa. Ça veut dire ce sont des clubs qui gardent toujours dans le coin de leur tête l'équipe nationale. Et Jamel Belmadi, c'est transmettre les messages. Si vous n'êtes pas performant, automatiquement vous n'êtes pas sélectionné, et c'est le message pour tout le monde. On le voit avec tout le monde, et même Rachid Ghezal, même si on dit en équipe nationale qu'il n'est pas performant comme en club, mais il rend toujours service. À chaque fois qu'il vient en équipe nationale, il a rendu service. Rappelle-toi pendant le Covid, quand les joueurs ne pouvaient pas venir parce que leur club refusait de le laisser, Rachid Ghezal était venu.
Ça aussi, ça fait partie des critères que retient le sélectionneur, à savoir cette envie de répondre au présent lorsque le sélectionneur appelle le joueur.
Exactement, et les joueurs sont toujours présents, on les voit. Et à chaque fois qu'ils viennent à l'équipe nationale, en équipe nationale, ils sont tellement contents d'être là.
Pourquoi c'est ça ?
Et ce qui rend la particularité de l'équipe nationale algérienne, c'est le fait qu'ils soient toujours là, et on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus en famille qu'en équipe nationale. Et ça, on le voit aussi sur le banc de touche, même les joueurs qui ne jouent pas et qui sont souvent sur le banc de touche, mais ils se donnent à fond.
En fait, c'est ça qui est rare. Enfin, ce que Jamel a pu changer dans la mentalité du joueur algérien, c'est... On sait bien que quand il y a un groupe, il y a toujours des tensions, c'est normal. Tout le monde veut jouer. Ça fait partie de la règle du jeu. En gros, la concurrence, elle est là aussi, elle sert à ça.
Non, Jamel Belmadi, il a réussi à faire quelque chose que les entraîneurs n'ont pas réussi. Jamel Belmadi, il connaît la mentalité du joueur algérien. Parce que il a évolué dans ce schéma, il a évolué dans cette sphère footballistique, et c'est ce qui fait sa particularité. Parce que quand Jamel Belmadi s'adresse à un joueur algérien, il connaît sa mentalité, il sait comment transmettre un message, contrairement aux autres entraîneurs qui l'ont précédé. Je fais allusion, par exemple, à Lilodzic. Ouais. Il avait dit, je ne peux pas mettre en touche un Nadir Belhadj.
Oui.
Il l'avait dit. Mais voilà, mais Jamel Belmadi, il sait transmettre les messages. Même s'il ne vous convoque pas, vous êtes toujours là. La sélection, l'équipe nationale algérienne, vous êtes toujours ouverte, mais c'est à vous de faire vos preuves. Et c'est ce qui se passe avec Bounja, parce que quand on le voit dans son club, il n'est plus performant comme il l'était l'année dernière.
Après, je pense aussi que Jamel Belmadi a aujourd'hui une exigence, au moins que les joueurs jouent un championnat un peu plus costaud. C'est vrai, aller jouer au Moyen-Orient, le rythme du championnat n'est pas le rythme européen. On le voit par exemple à un moment donné, la menace qui pesait sur les épaules de Youssef Belaïli, il a préféré finalement le projet sportif au projet financier. Bon, il a montré ses preuves, il a pu démontrer qu'il reste performant après quelques mois de préparation, parce qu'il lui a fallu déjà de la préparation physique qu'il n'avait pas au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, visiblement, c'est bien parti pour qu'il reste à Brest.
Oui, c'est bien parti pour qu'il reste à Brest. Il y a un contact aussi avec l'OM, d'après plusieurs médias phocéens. Et moi, on revient toujours au même problème de l'agent. Parce que les joueurs algériens, certes, ils sont techniques. Mais ce qui leur manque, c'est d'avoir un agent influent. Et c'est pour ça que les joueurs algériens ne s'exportent pas très vite. Et c'est ce qui fait la particularité de ce problème. Parce qu'avoir un agent influent dans le monde footballistique, automatiquement, ça vous ouvre des touches. Ça vous ouvre des touches un peu partout, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne. Parce que quand on voit un Younes, par exemple, qui est extrêmement technique, je pense que pour moi, c'est l'un des meilleurs techniciens au monde, parce qu'il a une patte gauche magique. Ça me fait penser, quand il part en chevauchée, ça me fait penser à un Messi quand il était à son sommet.
On l'a vu récemment. Hein.
Exactement, on l'a vu récemment. On le voit souvent à chaque fois qu'il est convoqué en équipe nationale, malgré le fait qu'il se blesse assez souvent. Mais moi, j'imagine que le problème des joueurs algériens, c'est le fait d'avoir des agents qui ne sont pas influents. C'est pour ça que le joueur algérien ne s'exporte pas. C'est pour ça que les joueurs algériens n'ont pas cette visibilité. Les joueurs marocains, prenons exemple Aguerd, par exemple, qui vient tout juste d'être recruté en Angleterre.
Ah, il a quitté le Stade Rennais.
Il a quitté. Maintenant, il est dans un club, c'est Wolverhampton, je crois.
Ah, quand même.
Voilà. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait la particularité du joueur algérien. Il faut avoir des agents influents. Le seul joueur algérien qui a vraiment un bon agent, c'est Rachid Ghezal. Parce qu'il a fait les plus grands clubs. En Italie, il était à la Fiorentina. Il est parti. Bon, il était à Lyon, Fiorentina, Leicester. Et ensuite, là, il est en Turquie.
Et Beşiktaş, je crois.
Oui, voilà, Beşiktaş, en Turquie. C'est-à-dire, c'est le seul joueur algérien qui a vraiment un agent influent qui lui permet d'avoir toujours des touches. Et quand je vois un Younes, quand je vois sa technicité, son explosivité, même s'il se blesse assez souvent, mais c'est dommage. C'est la même chose aussi pour Youssef Attal. Parce que Youssef Attal, quand il était au sommet, à son apogée, je le voyais vraiment dans un autre club.
En fait, à l'issue de sa première expérience en France, tout le monde voyait Youssef Attal dans un très grand club. Et puis, l'enchaînement des blessures a fait que aujourd'hui, quand il rentre sur un terrain, il y a cette hantise de la blessure. Peut-être aussi que psychologiquement, il n'arrive pas à s'en remettre de ses blessures à répétition.
Et peut-être
cette
aussi
peur également de mal finir sa carrière.
Oui, et peut-être aussi parce qu'il s'est fait les ligaments. Et c'est la blessure que la tout pire. Footballeur a peur d'avoir ou de contracter. Ce qui fait la particularité de Youssef Attal, c'est le fait qu'il change de son mode de vie. Parce qu'en joueur, quand on voit un Cristiano Ronaldo à l'âge de 37 ans et quand on voit ses performances, on se rend compte que l'hygiène de vie compte. Et le fait de dormir à l'heure, de s'entraîner à l'heure et d'avoir une hygiène de vie droit, automatiquement, ça vous évite des blessures inutiles.
Malheureusement.
Et même Jamel Belmadi, même s'il ne l'a pas dit d'une manière indirecte, mais il a insinué à travers un de ses discours en suggérant à Youssef Attal de se marier. Je ne sais pas si tu te rappelles.
Alors tu sais pourquoi? Parce que c'est le seul moyen d'avoir ce qu'on appelle une stabilité et éviter un petit peu ce qui lui arrive, parce que les blessures à répétition, les blessures musculaires, on sait que souvent elles ont un lien, et souvent c'est aux conditions de vie du joueur. Il n'y a pas de mystère. Hein,
donc, et la famille aussi, ça compte. La plupart des grands joueurs footballistiques que l'histoire a connus, ils se sont tous mariés extrêmement jeunes. Prenons exemple sur Zidane, ouais. Cristiano Ronaldo. Les exemples sont là et la liste est grande aussi.
Ouais, les Maradona, les Messi, etc. Ouais.
Voilà, exact.
C'est la preuve que, effectivement, pour faire une très grande carrière, la stabilité, elle passe aussi par la cellule familiale.
Et comme on dit aussi, derrière le succès de chaque homme se cache une femme.
Eh oui, on marque une première pause et on se retrouve dans un instant. Juste pour vous dire qu'après un quart d'heure de jeu, Espagne 0, Algérie 0, Grèce 0, Turquie 0, je vous rappelle que c'est la première journée des Jeux méditerranéens d'Oran. Et ce sont les équipes des U18 qui représentent les différentes nations.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Bien, après avoir parlé de l'ouverture des Jeux méditerranéens, je vous le rappelle, hein, c'est au bout d'un quart d'heure sur les deux matchs. Je vous rappelle que dans cette édition, ce sont les U18 qui s'affrontent. Alors que les premiers Jeux, c'est des premiers que l'Algérie a organisés en 1975 à Alger, justement. Ce n'étaient pas des U18, mais de vrais seniors. C'était à l'époque les joueurs du Mouloudia, de la JSK, du CRB. Je me rappelle des garçons comme Betaroni, Mengelti, etc. C'était des joueurs des équipes A de clubs qui jouaient pour les Jeux méditerranéens. Et aujourd'hui, on privilégie, avec l'explosion du nombre de matchs au niveau international, on a préféré mettre en valeur ce qu'on appelle des sélections de jeunes, comme le sont aujourd'hui les grandes écoles de formation, que sont celles de l'Espagne, de la France, du Maroc également, qui a fait quand même de bons classements ces dernières années dans les Jeux méditerranéens, la Turquie aussi, donc il faut se méfier, les Italiens qui aimeraient bien aussi revenir au premier plan. Bref, c'est des groupes assez solides. Donc ça, on va suivre ce parcours tout au long de cette émission, sur ces deux premiers matchs. Pour l'instant, comme je vous dis, j'ai encore devant moi le chrono, 23 minutes, 0 partout. Mais on va passer à ce qu'on appelle le sport africain, puisqu'on fait le point sur l'ensemble des groupes après deux journées de compétition.
Le sport. Côté Afrique.
Bon, alors, mon cher Fodil, on sait que ça a démarré pour toutes les équipes, hein, deux journées. Je l'avais expliqué en introduction que cette CAN qui est prévue en 2023.
En Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire, à la base, on l'avait programmée vers l'été. Mais visiblement, avec le dérèglement climatique, ils ont peur des grosses pluies. L'affaire en janvier 2023, c'est impossible parce qu'on va sortir de la Coupe du Monde du Qatar. Tu ne pourras pas remobiliser des garçons qui ont fait une Coupe du Monde pour faire une CAN, je dirais, 15 jours après.
Vivre une saison extrêmement compliquée l'année prochaine.
Très compliquée. Ça veut dire que si jamais c'est reporté, ce sera pour janvier 2024. Et, oui, 2024. Et entre-temps, bien sûr, on aura les Jeux de Paris et l'Euro de football.
Mais la question qui reste posée, est-ce que les clubs seront d'accord de laisser
partir? Oui.
Est-ce que les clubs vont céder leurs joueurs pour les sélections africaines en plein milieu de saison? C'est ça la question.
Je pense que, faut dire, j'ai eu la chance d'avoir vécu les différentes étapes de l'évolution du football africain. J'ai eu l'occasion également d'analyser la situation à l'époque où la CAN, ce n'était que 8 nations. Aujourd'hui, c'est 24. Pourquoi ? Parce que l'Afrique a évolué. Ce ne sont plus les mêmes conditions. Les pays ont travaillé, ont développé des structures et ils ont aussi des joueurs. Il faut le reconnaître. Oui ?
Ça, le football africain a évolué. Sauf que le football africain, européen aussi, a évolué de son côté.
Oui. C'est financièrement parlant.
Les saisons où le football, la CAN, se composait uniquement de 8 équipes, c'est plus comme avant.
Oui.
Ça, c'était avant. Sauf que maintenant, la saison footballistique d'un club lambda, d'un club, prenons un exemple, un club comme l'Olympique Lyonnais, c'est 50 matchs par saison. Et est-ce qu'un club comme l'OM, l'OL, le Paris Saint-Germain ou d'autres clubs qui évoluent en Europe laisseront ou céderont leurs joueurs en plein saison? C'est ça la question, parce que j'imagine, tu te rappelles l'année dernière, juste avant la CAN, il y avait énormément de problèmes, des problèmes dus à Sadio Mané, à Riyad Mahrez, parce que les clubs étaient lancés dans leur saison. Il y a des clubs comme Liverpool, Manchester City qui visaient le quadruplé. Est-ce que les entraîneurs vont céder ces joueurs-là? Est-ce qu'ils vont pas avoir de problèmes? On se rappelle tous de l'affaire Andy Delors, même s'il y a des énigmes. Mais est-ce que ces clubs-là vont céder leurs joueurs? Moi, ça m'étonnerait. Parce que nous allons vivre une saison, la saison prochaine, on va vivre une saison exceptionnelle, avec une Coupe du Monde en plein milieu de saison. Les championnats seront actifs. C'est ça la question.
Alors, je vais te répondre sur cette question. Entre l'époque où il y a eu 8 nations et maintenant, on s'est passé à 24. On jouait, la CAN, ça a toujours été programmé tous les 2 ans. Il se trouve que on jouait en année paire. Jusqu'au moment où ça a posé cette question de disponibilité des joueurs et par rapport aux compétitions européennes. Alors, donc, je viens de lire à l'instant l'ouverture du score pour les Algériens face à l'Espagne, donc l'Algérie qui mène 1-0 devant l'Espagne. Alors, pourquoi je te parle de cette époque? C'est parce que les Africains se sont rendus compte qu'ils avaient besoin, pour le développement de leur pays, pour avoir des infrastructures, ils avaient besoin de la CAN.
Oui.
Raison pour laquelle on l'a maintenue tous les 2 ans. Aujourd'hui, faire une CAN tous les 4 ans pour un continent de 53 nations, c'est pas faisable. Donc, tous les 2 ans, c'est vrai que c'est resserré. La preuve, la FIFA veut faire une Coupe du Monde tous les 2 ans.
C'est à cause de l'argent.
Oui, c'est une question de business. L'Afrique est arrivée à un point où il fallait absolument qu'elle trouve une parade. En accord avec l'UEFA, avec les clubs européens et avec la FIFA, on a décalé la compétition africaine d'année paire en année impaire.
Oui.
Pour ne pas entrer en conflit avec les calendriers européens et mondiaux. Ensuite, il y a eu le Covid qui a tout chamboulé, qui a tout bouleversé. Ensuite, la seule fois où ça s'est passé à peu près correctement, c'était en Égypte en 2019, quand l'Algérie l'avait emporté. On a joué en année impaire et on n'a dérangé personne. Il se trouve que là, le Covid est arrivé, ça a rechamboulé à nouveau le programme. Alors, je ne vois pas pourquoi et au nom de quoi on décide le changement pour le Qatar, parce que financièrement, ils sont prêts à payer le prix fort pour cette organisation. Et quand il s'agit de l'Afrique, on refuse d'ouvrir les yeux. Sachant aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. Mmh. Je parle avec un langage cru. S'il n'y a pas la présence des footballeurs africains en Europe, beaucoup de championnats seraient à l'arrêt.
Oui.
Et ces Africains, ce sont ce qu'on appelle des Africains pour la majorité d'origine. Ils ont représenté on va dire des petites catégories, par exemple en France,
oui,
en Angleterre, en Belgique. Ils ont grandi. Aujourd'hui, ils représentent la quasi-totalité des sélections ici dans le monde occidental. Et de plus en plus d'ailleurs. S'il n'y a pas la présence de ces garçons, on n'aurait pas autant de championnats. Je prends le cas le plus flagrant, c'est en France, que ce soit, je parle de la Ligue 1, la Ligue 2, le National et tous les championnats à l'étage inférieur. Alors, comment peut-on m'expliquer aujourd'hui qu'à chaque fois qu'il faut que quelqu'un se sacrifie, c'est l'Afrique? Je pense que les clubs européens doivent également mettre,
chacun doit
assumer un minimum de responsabilité. Oui. Ok, il y a eu des problèmes au niveau mondial par le biais du Covid. Il faut aussi accepter le fait que c'est compliqué. On l'avoue, mais on a donné l'organisation de ces CAN à des pays qui n'ont pas d'infrastructure et climatiquement parlant, ils sont positionnés dans une zone où on était, c'est la cata, en termes de pluie tropicale.
Parce que d'autres pays n'ont pas candidaté aussi.
Non, c'est pas du tout ça. Ouais. En fait, à l'époque du président Issa Hayatou,
oui,
il savait qu'il allait perdre. Et pour récompenser un petit peu ses amis, il a, avec son comité à lui, choisi 3 pays pour lesquels. À savoir, il avait choisi... le tout dernier, le Cameroun, son propre pays. Il a choisi la Côte d'Ivoire et il a choisi la Guinée. Entre-temps, il y a eu des problèmes lorsqu'il fallait remplacer la Libye au pied levé, avec la guerre civile. Okay. Le Maroc s'est désisté à la dernière minute. Il fallait trouver également une solution de rechange. Et au final, l'Égypte a accepté de faire en 2019. Voilà, voilà la réalité. Aujourd'hui, se pose un nouveau problème, cette histoire encore de pluie tropicale, qui pourrait décaler la CAN ivoirienne de l'été.
Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment uniquement des problèmes de météo. Il y a des problèmes aussi de construction d'infrastructures,
oui.
Parce qu'ils sont extrêmement en retard. Quand on regarde la réalisation des stades, ils sont extrêmement en retard, sachant que nous sommes à quelques mois d'une Coupe d'Afrique. D'une Coupe d'Afrique qui va englober 24 équipes avec des joueurs mondiaux.
Ouais.
Je fais référence à Riyad Mahrez,
Mané,
Salah.
Oui, oui.
La liste est très,
très
grande.
Ouais.
Voilà. Et la liste est longue. Mais est-ce qu'il y a uniquement ce problème tropical? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que moi, je pense qu'il y a un problème aussi de construction. Ils n'ont pas, les moyens pour faire face à une Coupe d'Afrique. Et je pense que la CAF est en train de chercher un autre pays. Parce que j'avais vu dans plusieurs médias, que ce soit des médias algériens, et j'avais même vu l'Algérie qui peut se positionner pour recevoir, pour accueillir cette CAN, parce que maintenant l'Algérie, ils ont les moyens. Le stade de Tizi Ouzou, certes, n'est pas encore fini, mais il reste juste quelques modifications à apporter.
Alors en principe, sur 2023, il sera fini. Parce que
voilà.
Vu comme il coule là-bas.
Voilà, exactement. Le stade d'Oran, on l'avait vu hier, il est flambant neuf.
Aujourd'hui,
le 5 juillet aussi.
Il y a le petit stade de Sig, là, sur lequel joue aujourd'hui l'Algérie.
Exactement.
C'est l'Espagne, hein.
Voilà, exactement.
Il est magnifique, hein.
Voilà.
C'est un superbe stade.
Il y a aussi le Maroc qui s'est positionné pour accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je vois pas uniquement des problèmes de météo. Parce que je pense qu'eux, ils essaient juste de trouver des excuses. Parce que pour accueillir une Coupe d'Afrique des Nations avec 24 équipes qui vont avoir des joueurs de renommée, il faut quand même mettre les moyens. Et au Cameroun, lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, on avait vu qu'il y avait énormément de problèmes de stade. On l'avait vu avec Jopama Stadium. Je ne sais pas si on peut appeler ça un stade, mais voilà. On avait vu une finale dans un groupe entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Si j'étais à la place de la CAF, je pense que je l'aurais dû délocaliser dans un stade où on peut voir un bon football. Parce que la CAN, elle était suivie par... C'est pas qu'elle était... Elle est suivie par...
Attention, la CAN est un événement mondial.
Mondial. Elle est suivie par les plus grandes chaînes sportives du monde. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage de passer à côté d'une CAN comme celle-là. Parce que c'est le seul événement qui peut affirmer les joueurs africains et leur ouvrir des portes. Portes pour être recrutés dans des grands clubs.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les très grands joueurs africains imposent leur loi, même à leur club. Hein. C'est ma sélection, j'y vais.
Oui, bien sûr, parce que ça lui permet de découvrir d'autres championnats, d'autres sphères, d'autres portes. Et c'est pour ça que la plupart des joueurs africains qui prennent part de cette Coupe d'Afrique des Nations, ils se donnent à fond. On l'avait vu avec Mahrez en 2019, il était intenable et époustouflant.
Bah oui, bien sûr.
Voilà, il nous a qualifié face au Nigeria. Il avait fait la différence aussi face au Nigeria lors du premier but, face à la Côte d'Ivoire, même si ça ne voulait pas rentrer, mais il avait fait ce qu'il devait faire sur son côté. Défensivement, il était présent et c'était un capitaine vaillant. Même si maintenant on le critique, mais il faut pas avoir la mémoire courte parce que Mahrez, c'est Mahrez, qu'on le veuille ou non, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la sélection algérienne. Avec Bellomi, avec Assad, la liste aussi est très très grande, comme tu dis.
Alors justement. Je continue avec toi, oui. Fodil. Maintenant, on va passer à relance à nouveau le jingle pour parler de ces fameux groupes et des résultats.
Oui, bien sûr.
Le sport, côté Afrique.
CAN 2023, éliminatoire. Nous avons déjà joué deux journées. Alors, on y va. On commence
par le groupe A, on a le Nigeria qui est première, la Guinée-Bissau, le Nigeria à 6 points en compteur, deux belles victoires. La dernière en date, c'est face à Sao Tomé et Principe, 10-0.
Ouais.
La Guinée, elle est deuxième avec 4 points en compteur. Pour le groupe B, on a le Burkina Faso, le Cap-Vert aussi. Le Burkina Faso avec 6 points, le Cap-Vert deuxième. Le Cap-Vert a réalisé une belle victoire lors de son dernier match. Le Burkina Faso aussi face à Suisse-Lande, 3-1. Et pour le groupe C, on a le Cameroun, jusqu'à 3 points. La Namibie, c'est la surprise du groupe, oui, avec un point qui se trouve deuxième. C'est un groupe, disons, à la portée du Cameroun, parce qu'il est composé de Cameroun, Namibie, Burundi et le Kenya.
Oui, et sachant que le Kenya est exclu. Hein.
Est exclu, exactement. Voilà. Le Kenya et le Zimbabwe sont exclus, dû aux ingérences politiques. Et d'ailleurs, même la Tunisie risque d'être exclue aussi pour la Coupe du Monde.
On parlera pour l'instant
au conditionnel. Et pour le groupe D, on a l'Éthiopie, le Malawi. L'Éthiopie qui est première, le Malawi également deuxième avec 3 points au compteur pour 2 matchs, une victoire et une défaite. Mmh. Et aussi pour le groupe E, on a le Ghana, l'Angola, c'est un groupe extrêmement relevé, République centrafricaine et Madagascar. On a le Ghana qui est première avec 4 points au compteur, l'Angola également deuxième avec 4 points. Et pour le groupe F,
reviens sur le groupe précédent, il est intéressant.
Pour le Ghana, le Ghana est première, l'Angola est deuxième avec 4 points. Pour le Ghana, c'est 2 matchs, une victoire et un match nul. L'Angola, une victoire également et un match nul.
Et les autres équipes, alors qu'ils sont tous...
Pour la République,
j'ai un point à donner là.
Pour la République centrafricaine, c'est 2 matchs, un match nul et une défaite. Pour Madagascar, c'est 2 matchs, un match nul et une défaite.
Et d'ailleurs, c'est ce que je regrette le plus, c'est par rapport à Madagascar.
Pour Madagascar,
à l'époque de Ahmed Ahmed, ils ont quand même fait une canne. Ils avaient même une belle canne, c'était historique pour eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce groupe, l'Angola, c'est aussi une ancienne nation qui a fait cette canne. Malheureusement,
je pense pas que c'est une ancienne, parce que
L'Angola est un pays lusophone régulier dans cette compétition.
Sauf que l'Angola, le football angolais est passé par une crise footballistique, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de développer leurs infrastructures, mis à part lorsqu'ils ont accueilli la CAN. Pour le groupe F, on a la sélection algérienne, les Fenech, avec 6 points au compteur. La dernière victoire, c'est face à qui ?
La Tanzanie.
Combien ? 2-0.
Ouais.
Et aussi, on a le Niger. Deuxième, oui, avec 2 points au compteur. La Tanzanie, 1 point, c'est la surprise. Et l'Ouganda, c'est 1 point également. Et ensuite, on a le groupe G, c'est le Mali qui est en tête avec 6 points. La Gambie, c'est avec 3 points. Le Congo également 3 points. Et le Soudan, c'est 0 point. Et ensuite, pour finir, nous avons le groupe H, c'est la Côte d'Ivoire avec 4 points au compteur. 2 matchs, une victoire et un match nul. Nous avons le Comore. La surprise.
Ben oui.
Deuxième.
Qui a fait le Shinkan.
Voilà,
absolument.
Exactement.
Ah oui, tout à fait.
La Zambie qui revient avec 3 points, c'est troisième. Et Lesotho, c'est 1 point qui ferme la marche. Pour le groupe I, nous avons la Mauritanie, 4 points. Le Gabon, 4 points. Le Soudan, c'est 3 points. Et le Congo, c'est 0 points. C'est la surprise.
Ouais, c'est la grosse surprise.
Ah, voilà,
alors, un petit rappel aussi, hein, juste avant la pause, en sachant que dans ces groupes, il y a une exception à la règle, c'est que maintenant on l'apprend comme ça. Même ça l'a fait pour le Cameroun lorsqu'il a fait sa CAN. L'organisateur participe aux éliminatoires, même s'il est qualifié d'office.
Exactement.
Voilà, très bien. On va marquer une seconde pause, mon cher.
Il y a aussi le groupe de la Tunisie. C'est le dernier groupe.
Ah oui, pardon. Parce que la Tunisie, on reviendra après.
D'accord.
Je laisse après la pause. On parle du groupe de la Tunisie et de ce cas. Pour l'instant, c'est pas fait, mais c'est au conditionnel et ça pourrait faire de gros dégâts si vraiment les tensions restent énormes entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération tunisienne de football, en sachant que la FIFA, dès que le politique s'ingère, eh bien, il sanctionne immédiatement.
C'est ce qui s'est passé avec le Kenya et le Zimbabwe.
Tout à fait. Donc, il n'y a pas de raison également. Espérons que la raison finira par l'emporter.
Faux de sport. Revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Faux de sport. Sur Beurre FM. Beurre FM.
Allez, troisième et dernière partie de cette première heure de Fou de Sport. Voilà, je reviens comme ça tranquillement devant vous, juste pour vous dire. Et que, alors, ce qui se passe, c'est que on peut parler d'un premier véritable exploit de la sélection algérienne, car face à l'un des favoris du tournoi, en l'occurrence l'Espagne, eh bien, il mène 1-0. C'est vraiment la première surprise, et à l'instant même également, la Turquie vient d'ouvrir le score face à la Grèce. Les Turcs mènent 1-0. Voilà les premières tendances de ces Jeux méditerranéens. Alors, c'est vrai qu'avec Sofiane, on s'était dit, quand on a fait le point sur la CAN, il reste le groupe de la Tunisie. On parle d'abord résultat, ensuite sur ce qui risque de se passer si jamais le ministère des Sports continue à se mêler des affaires de la fédération.
Alors Mohand, il nous reste le groupe G, composé de la Tunisie, la Libye, la Guinée équatoriale et le Botswana. Pour l'instant, c'est la Tunisie qui est en tête avec 4 points de match, une victoire et un match nul. La Libye est deuxième avec 3 points au compteur. En ballotage favorable avec la Guinée équatoriale, 3 points également. Et il ne faut pas oublier que la Tunisie va recevoir la Libye le 19 septembre prochain.
Bon, ça c'est sur la partie purement chiffres. Ok, on va s'intéresser à...
Oui. Il y a aussi le groupe du Maroc.
Ah, autant pour moi. Ah, mes amis marocains, excusez-moi.
Il y a le groupe du Maroc qui est composé du Maroc, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et le Libéria. Le Maroc est en tête avec 6 points au compteur. Le Zimbabwe a été éliminé. Il nous reste l'Afrique du Sud et le Libéria, 0 point chacun. Et pour finir, c'est le Sénégal, le Mozambique, Rwanda et le Bénin. Et en tête, c'est le Sénégal de Sadio Mané.
Eh, ça va de soi. Est-ce qu'on avait parlé de l'Égypte ?
Non. Pas parler de l'Égypte, mais je l'ai pas sous les yeux.
C'est quand même incroyable que l'Égypte disparaisse comme ça de la liste des groupes.
Là, je l'ai pas sous les yeux. Attends, je vais faire une autre recherche. Et en attendant, je peux.
Voilà. Alors, le temps que tu recherches.
C'est bon, je l'ai retrouvé. C'est le groupe D. On a parlé de l'Égypte qui est quatrième avec 3 points au compteur.
Quatrième
avec 4 points au compteur pour 2 matchs, une victoire et une défaite.
Et qui est en tête de ce groupe ?
En tête de ce groupe, c'est l'Éthiopie. C'est la surprise du groupe
qu'on
avait parlé.
En fait, quand tu m'avais parlé de l'Éthiopie, juste parler de l'Éthiopie et du second, mais pas de l'Égypte en tant que...
L'Égypte est deuxième.
Et voilà.
Pour 2 buts contre et les différences de buts, ils ont encaissé un seul but.
Bon, alors pour moi, mi-temps, Espagne 0, Algérie 1, Grèce 0, Turquie 1. On est à 45+2, donc là... Dans quelques instants, ce sera la mi-temps également pour le match entre la Turquie et la Grèce. Je reviens maintenant sur l'affaire de la Tunisie. C'est quand même une grosse affaire. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi j'en parle ainsi ? C'est parce que tout simplement, je l'ai lu il y a 48 heures via les réseaux quand même. Ce risque d'exclusion du mondialiste.
Exactement, il y a un problème entre le ministre des Sports Kamel Deghiche et le président de la Fédération Tunisienne de Football, Wally Jarry.
Eh oui.
Pour ingérence politique.
Et je peux dire que
la FIFA
Wally Jarry, c'est quelqu'un c'est un poids lourd dans le milieu sportif tunisien.
Et africain en général.
Et africain. En plus, ils ont des ramifications au sein de la FIFA. Je pense que pour le ministère des Sports, c'est très compliqué. Si jamais il venait à s'immiscer, risque d'exclusion. Et tout le monde se pose la question, qui pour remplacer éventuellement la Tunisie ?
Là, c'est la grande question, parce que j'avais vu sur beaucoup de médias comme quoi l'Italie s'est manifestée pour remplacer la Tunisie, mais ils ne peuvent pas, parce que c'est une place dédiée à l'Afrique, automatiquement ils ne peuvent pas. Est-ce que, pour autant, voir l'Algérie être qualifié, bon, pour l'instant c'est pas encore d'actualité, mais je sais pas comment la FIFA va s'y prendre pour en cas où la Tunisie...
Ou alors ce serait carrément le Mali qui faisait partie du groupe de la Tunisie.
Peut-être. Pour l'instant, on ne sait rien du tout. Pour l'instant, on parle au conditionnel. Je pense qu'on aura les résultats prochainement et on aura une conclusion prochaine de la FIFA. Aucun communiqué n'a été publié de leur part. Et on attend les résultats de la FIFA. Pour l'instant, on parle qu'au conditionnel.
Bon, très bien. Juste un petit rajout, puisque nous sommes en vrai direct. On est à 45+4 dans le deuxième match, Grèce-Turquie. Les Turcs ont marqué un second but. Donc, 2-0 pour la Turquie. Bravo. Et félicitations à l'équipe turque. Je vous rappelle qu'à 21h, nous aurons droit à France-Maroc. Et Italie-Portugal.
Oui, de belles affiches.
Ce sont de super belles affiches, magnifiques d'ailleurs. Autant pour moi. Donc je disais que par rapport justement à la Tunisie, le cas est quand même sidérant. C'est une équipe qui a obtenu sa qualification sur le terrain. Malheureusement, ces problèmes sont récurrents en Afrique.
On l'a vu avec le Kenya, le Zimbabwe, les exemples sont...
Et c'est parce qu'au niveau camerounais, il y a la qualif. Sinon, de tout temps, j'ai connu ça, il faut dire, avec un journaliste, un regretté, Jacques Héroux, qui était un grand ami de Beurre FM. Et je me souviens de l'époque où il y avait ces dissensions entre le ministère des Sports et la Fédération. Et à la fin, ça se terminait par un petit accord, histoire de ne pas empêcher, par exemple, les Camerounais de faire une Coupe du Monde. Mais c'est toujours, j'étais sur le fil du rasoir. Là, au niveau tunisien, pour l'instant, on est en stand-by. On sait que là, actuellement, également, avec le gouvernement tunisien, il se passe des choses, notamment au niveau politique, où ils prennent des décisions comme ça, oui, beaucoup à la hâte. J'espère que ça ne va pas impacter la sélection qui a obtenu sa qualif sur le terrain, et quand même que les garçons...
comme Abir Hazri,
oui,
puissent participer à une Coupe du Monde et laver l'affront de 2018. Parce qu'ils devaient être qualifiés. Face au Portugal, ils ont sorti le match de leur vie.
Comme quoi, parfois, il suffit de pas grand-chose pour se retrouver sur la touche. Également, avant la fin de cette première partie, parce qu'il faut savoir que nous allons parler de ce grand événement qui sera organisé par une association d'anciens sportifs algériens ici en région parisienne. J'y reviens avec plus de détails à partir de 19h. Mais dans un premier temps, Faudil, j'aimerais bien, oui, que tu reviennes sur le dernier classement FIFA. Il nous reste 2 minutes sur le dernier classement FIFA, où visiblement l'Algérie aurait gagné 3 places, ce qui serait quand même très intéressant.
L'Algérie pour l'instant est 41e grâce à 3 belles victoires. La première face à la Tanzanie, la deuxième face à l'Iran, la première, j'ai oublié...
L'Ouganda,
voilà. Et pour l'instant, l'Algérie cumule au compteur 14 080 points.
Voilà. Et si on prend le classement...
Juste derrière l'Égypte.
Voilà. C'est ce que j'allais dire. Si on prend le classement africain, quelle est la position de l'Algérie au niveau africain? C'est-à-dire que dans ce classement FIFA, si on regarde le classement CAF, logiquement, elle doit être dans le top 5.
L'Algérie, ouais, je vais te dire tout de suite.
Normalement, elle n'est pas sortie du top 5.
Pour l'instant, je n'ai pas encore le classement.
Oui. Alors, une technique. Regarde bien le classement FIFA. Et sur la droite, tu as le classement continental.
Pour le top africain, nous avons le Sénégal en tête. Ouais. La Tunisie et l'Algérie 3e.
Ah, ça veut dire que l'Algérie a gagné une place.
Non. Là, c'est un ancien classement. Parce que là, celui j'ai. C'est pas indiqué sur celui que j'ai, c'est pour ça.
D'accord, très bien. Écoute, on a le temps. Pendant la pause, on va aller sur le site de la FIFA. On va retrouver ce classement. Mais je sais que on était dans on était quatrième à l'époque. Ça veut dire que je pense qu'on se maintient. Soit on remonte à la troisième, soit en position 4.
Je vais te dire tout de suite.
Voilà. Alors je dis ça, c'est par rapport aux têtes de série rapidement avant la pause pub et parler de ce grand événement qui aura lieu ici en région parisienne. Alors, ça donne quoi,
Nous avons le Sénégal qui est 18e mondial,
oui,
le Maroc 22e mondial, okay, la Tunisie 30e, le Nigeria 31e, nous avons aussi le Cameroun 38e, l'Égypte 40e et enfin l'Algérie qui est 41e mondial.
Ça veut dire que l'Égypte et l'Algérie sont sortis du top 5.
Voilà, exactement.
Et que demain, s'il y a une compétition continentale, ils ne seront plus tête de série.
Voilà, exactement.
Voilà, merci pour l'information.
Je t'en prie.
Mon cher Faudil, c'est très important parce qu'il fallait absolument que je vous donne cette information-là.
Jusqu'à 20h, Food of Sport sur Beurre FM. Beurre FM.
Allez, juste, pardon, avant de finir cette première heure d'émission, on avait parlé du classement, mais on continue dans ce fameux classement. On parle quand même de la France.
Ouais.
Champion du monde en titre et pour la première fois depuis belle lurette, l'équipe de France
est sortie du top 3 mondial. L'équipe de France est 4e et c'est dû aux 4 matchs précédents qu'elle a vécu face
à la Ligue des Nations, c'est ça?
Voilà, exactement, face au Danemark avec une défaite au Stade de France 2-1 le 6 juin dernier, face à la Croatie, un match nul également face à l'Autriche et avant une défaite au Stade de France face à la Croatie. L'équipe de France a perdu son statut. Nous avons aussi en tête le Brésil, la Belgique et l'Argentine qui est 3e pour l'instant. L'Argentine de Lionel Messi qui reprend des couleurs sur l'échelle internationale.
Alors, Alors, je vous ai parlé de cet événement majeur qui va avoir lieu en région parisienne à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. C'est un événement qui est préparé par d'anciens grands sportifs avec à leur tête, je dirais, un ancien grand nom du rugby algérien, puisqu'il a été quand même international. Il a été, ils ont été, c'est une famille qui était à la base de la création de certains clubs, notamment dans l'est algérien, du côté de Msila. Et aujourd'hui, avec notre ami Ahmed Tebani, je vais essayer voilà, d'être comme ça et d'être, de ne plus bouger et pour pouvoir être en direct avec lui. Ahmed, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de Beurre FM.
Oui, bonsoir Mohamed.
Bonsoir.
Alors Ahmed, d'abord, j'aimerais bien que tu me resitues pour les gens qui ne te connaissent pas, un petit peu ton parcours, parce que vous êtes une famille de rugbymen, vous avez vulgarisé le rugby en Algérie à travers des clubs, par le biais, y compris chez les jeunes filles. C'est ça qui était extraordinaire.
Moi, juste une petite rectification. Moi, oui. Je suis Ahmed Jemaï pour Nanterre, pour le tournoi du 60e anniversaire. Ouais. Je suis un footeux, pas un rugbyman.
Ah oui, d'accord. Très bien. Autant pour moi, c'est pas grave. Parce que. Ok, Ahmed. Très bien, Ahmed. Donc, tu es un footeux, pas un footballeur, pas un handballeur. Pas un rugbyman. Autant pour moi, oh là là.
J'aime le rugby aussi, ouais.
Ouais. Bon, Ahmed, c'est pas un souci. Donc, en tous les cas, il y a un événement majeur qui se prépare ici en région parisienne. D'abord, quelle date et pourquoi un tel événement ?
Nous, moi je m'appelle Ahmed Jemaï, je suis natif des bidonvilles de Nanterre.
Oui.
Je travaille pour la mémoire de la guerre d'Algérie pour rapprocher les deux pays.
Oui.
Donc, après le 17 octobre 1961, dernièrement, on a eu par le maire. Pour l'année prochaine, on aura une place ou une rue pour l'UNE 45, l'autre UNE 45.
Oui.
Et là, pour le 60e anniversaire, donc à la demande de la forte communauté algérienne, donc on va organiser pour le 60e anniversaire un tournoi du 5 juillet 62.
D'accord. C'est quand même. C'est quand même un événement majeur, car déjà, Nanterre en elle-même est une ville historiquement importante pour la population algérienne.
Oui, lié en plus beaucoup avec des accords avec en Algérie. On est jumelé avec Tlemcen. Il y a beaucoup d'échanges. Et puis, il ne faut pas oublier que Nanterre, c'était quand même une ville où il y avait beaucoup l'immigration, il y avait beaucoup à Nanterre.
Oui. Très bien. Faudil a une question à te poser, Ahmed. Oui.
Bonjour, Ahmed. Ma question est la suivante. Quelles seront les personnalités qui seront présentes lors de cet événement ?
Écoute, on avait lancé ça en toute catégorie, c'est pour vous dire, et on a eu 20 équipes, 20 villes qui ont répondu.
Ah, quand même ?
Quand même, oui. Donc, on était obligé de sélectionner, limité à 10. On va faire deux mini-championnats. Donc, on a deux équipes, même de Lille, qui vont venir, avec des anciens d'Algérie aussi. On a notre équipe de Guidoura, avec Farid Yerfi, qui vont venir.
Eh oui, les fidèles.
Oui. Voilà, les fidèles. Et on a sept équipes de Nanterre, Puteaux, Gennevilliers, Colombes et tous les alentours, même de Dreux, qui vont venir jouer.
Et très bien. Et alors, comment va se dérouler ce tournoi et pendant combien de... On va dire, pendant combien de jours ? Est-ce que c'est sur la même journée ou bien sur deux jours ? Comment ?
Sur la même journée, on va faire deux mini-championnats, un peu comme les fights, tout un fight, sur deux parties de terrain, avec cinq équipes de chaque côté.
Oui.
Ils joueront quatre matchs, et puis les deux finalistes joueront une finale.
D'accord.
Et ensuite, on finira autour d'un couscous. On compte sur, parce que la dernière fois, on était parti sur 100 personnes, on se trouvait à 200. Là, on est parti sur 300 personnes parce que tout le monde veut participer, tout le monde veut venir, donc on a pris une précaution.
Voilà. Oui. Non, mais ce qui est quand même extra...
On va remettre aussi des trophées à d'anciens joueurs, d'anciens artistes, et puis d'anciens vieux, enfin, nos anciens.
Voilà. Oui, bien sûr. Mais Ahmed, ce qui est quand même extraordinaire entre nous, c'est que chez les Algériens, quand il s'agit d'organiser, de faire la fête, il faut toujours multiplier ce chiffre par deux, quoi, c'est ça ?
Voilà, parfois par trois.
C'est le charme. C'est le charme, et on ne peut pas le refuser, parce que tout le monde veut participer. Donc, il y a un élan. C'est fou, quand on parle d'Algérie, tout le monde participe. Je ne sais pas, l'Algérie est devenue vendeur, est devenue, même au niveau de notre municipalité, où il y a des élus, il y a même des députés qui vont venir, il y a même la nouvelle députée aussi qui sera là aussi parmi nous. Donc, tout le monde veut participer. Donc,
Je veux aller un peu plus loin avec toi dans ce dossier, parce que les jeunes ne savent pas quelle est l'importance comme ça de l'organisation d'un tel tournoi. On arrive en fin d'année scolaire, c'est le début des grandes vacances, certains vont partir. Comment avez-vous pensé à attirer un plus grand public, tout en sachant que on va rentrer dans une phase un petit peu d'oubli, parce que quand on arrive sur Juillet, c'est un peu compliqué quand même, Ahmed.
Oui, c'était spontané, les gens ont répondu.
Ah d'accord, ok.
Les gens ont répondu, et en plus, on a eu un soutien indéfectible du consulat d'Algérie à Nanterre. Je viens le remercier. Donc, les équipements vont être fournis avec un logo 5 juillet, le tournoi du 5 juillet 62, ça sera quand même quelque chose de très important. Et le couscous aussi, il est fourni aussi par le consulat d'Algérie à Nanterre. Donc, il y a beaucoup de mamans aussi qui vont participer. Il y a beaucoup de jeunes aussi dans les cités aussi qui veulent participer. En fin de compte, ça a pris une autre dimension.
Ouais. Voilà, on est parti sur une idée de base, un petit tournoi, les anciens, etc.
Ce qu'on voulait faire au début.
Oui. Et puis, ça vous a un petit peu changé le programme, mais surtout, je dis bien, mais surtout, la façon de voir cette journée. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous avez eu cette idée des récompenses. Si vous avez 300 personnes, effectivement, pour certains, il y a ce mérite de recevoir un trophée ou, je sais pas moi, une médaille pour service rendu.
Il y a déjà tous les joueurs partiront avec un trophée.
D'accord.
C'est prévu. Mm-hmm. Ensuite, on a d'autres récompenses, notamment pour des anciens. On a une association qui s'appelle les Chibani. Il y a quelques Chibanis qu'on a choisis qui ont marqué un peu l'histoire aussi.
Alors, Ahmed, les Chibanis footballeurs ou les Chibanis tout court?
Non, Chibanis, parce que c'est comme si le 5 juillet, on a ouvert la porte un peu à tout le monde.
Ah, magnifique, magnifique.
Il y aura des artistes, il y aura des sportifs, il y aura des Chibanis tout court, il y aura nos parents, pour ceux qui sont vivants. Et puis dans Mohand, on aurait bien voulu qu'ils soient parmi nous pour cette fois-ci. On appelle à Beurre FM aussi, que Mohand, s'il pouvait venir, ça nous ferait plaisir. Il n'est pas venu le 17 octobre, mais moi, ça me ferait plaisir de le recevoir pour cette journée.
Alors, rappelle-moi la date exacte.
Alors, le dimanche 3 juillet.
Non, c'est dimanche prochain.
Dimanche prochain.
Ah ouais.
À partir de 14h.
Eh oui.
Voilà. Et l'adresse se trouve au 135 avenue de la commune de Paris. C'est pas loin de la prison de Nanterre, donc on ne peut pas se tromper.
Comme par hasard, la prison, les Algériens.
Il y a la mosquée, il y a la prison, il y a le terrain.
Bon, est-ce que pour encourager le public à se présenter nombreux, il y a, tout à l'heure on avait parlé de notre ami Nasser Guédura que nous connaissons tous ici à Beurre FM, est-ce qu'il y a d'autres anciens sportifs qui ont répondu présents à cette invitation?
Il y a Ben Khaira, je crois, de Lille.
Oui.
Il y a Rahou qui va venir, je crois, d'Afrique aussi.
Oui. Slimane, il vient d'Afrique. Bravo. Slimane, chapeau.
Daleb, d'habitude, il vient, mais là, il doit partir en vacances, Nordine aussi. Mm-hmm. Donc, et puis, il y aura d'autres joueurs. Je crois que je vais laisser la surprise et puis d'autres
artistes. Oui, normal. Oui, il faut laisser la surprise. Voilà. Absolument, ouais.
Là, comme on dit, la porte, elle est ouverte. Donc, ça va être spontané. Et puis, et que les gens viennent. Et puis,
Bon. Avant de se quitter, parce qu'on a quand même besoin pour ceux qui vont venir dimanche prochain, je le rappelle, c'est à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Ce tournoi à Nanterre, ville historique de la communauté algérienne en région parisienne. Tout est ouvert, c'est gratuit, il n'y a rien à payer.
Il n'y a rien à payer, tout est ouvert, il y aura des animations, il y aura une buvette, il y aura ce qu'il faut pour recevoir les familles. Parce qu'il y a, je sais qu'on a pas mal de familles qui vont venir donc, avec leurs enfants.
Ouais, ça c'est important. Ça veut dire que toutes les conditions sont réunies. pour assurer une journée dynamique, une journée active, et surtout prendre aussi l'assurance sur avec les enfants, parce que si les familles viennent avec des enfants, il faut bien penser aussi à n'est-ce pas?
Et puis je ne dis pas en plus avec ce qui s'est passé hier à Oran, l'engouement que ça a pris.
Eh oui, ben oui, c'est ça.
Ça nous a étonnés tous. En tout cas, ils ont mis le paquet, et tant mieux. Et puis tout le monde en parle, et tout le monde veut participer maintenant. Tout le monde se sent des dettes.
En fait, l'histoire a toujours été ainsi avec l'Algérie, à savoir, lorsqu'il y a un événement, eh bien, l'Algérien en général sait faire le spectacle. Que ce soit au niveau institutionnel ou à titre privé par le biais d'une association.
Et puis c'est recevoir. Et je vais profiter de l'occasion. J'ai mon ami Sofiane aussi qui s'occupe de la communication. Il faudrait dire deux mots, Mohand.
Ah ben écoute, Sofiane est le bienvenu sur l'antenne de BRFM, bien sûr.
Bonsoir, Mohand.
Bonsoir, Sofiane.
Merci de nous permettre, à travers toi et à travers l'antenne de BRFM, de pouvoir, je dirais, faire une communication un peu plus large. Mm. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, pour cette fois-ci, on n'a pas besoin de dons, parce qu'on s'est tous un peu mobilisés pour financer, une partie aussi avec l'appui et l'aide du consulat d'Algérie à Nanterre.
Oui.
On tient à remercier M. Ahmed Slatnia, qui est le consul actuel, pour toute l'aide qu'il nous a apportée dans l'organisation de cette journée. Par contre, on a d'autres activités, comme le 17 octobre, comme le 45 mai, comme le 8 mai 45. Mmh. Et je lance un appel à travers votre radio aujourd'hui, pour que la prochaine fois, on puisse avoir... parce que c'est aussi des dates qui vont être un peu plus importantes. Mmh. Et je lance dès aujourd'hui un appel aux dons pour ceux qui veulent et de participation, hein, parce que comme disait Ahmed tout à l'heure, c'est ouvert, hein, c'est-à-dire que ceux qui veulent venir participer, nous aider, quelle que soit la façon dont ils veulent participer, hein, sont les bienvenus. Et on veut faire de cette journée, celle de dimanche, une journée festive, familiale, fraternelle, et voilà, c'est vraiment c'est très important pour nous.
Hein. Et vous le savez très bien, Sofiane, que l'antenne de Beurre FM, vous êtes ouverte, on l'a toujours répondu, présent lorsqu'il s'agit de mettre en valeur ce type d'événement.
Non, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ahmed, il m'a toujours dit.
Nawel s'est toujours déplacé.
Oui, oui, alors Nawel qui a passé quasiment une année à Intimouchent, qui est à côté d'Oran. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles.
Et on voudrait bien qu'il y ait une couverture de cet événement par votre radio aussi, parce que ça serait, je pense, un plus aussi pour les prochaines activités.
Bon, alors je vais voir avec mon collègue qui est devant moi, qui s'appelle Fodil, qui, éventuellement, s'il est présent dimanche après-midi à Nanterre, avant de venir ici en studio pour la dernière de la saison, ce serait bien que à ce moment-là, Fodil aille faire un petit tour, quoi.
Pour ma part, ça sera avec un grand, grand plaisir.
Bah, tu vois, tu l'as entendu, hein.
Pour ma part, ça sera avec grand plaisir.
Voilà, ça veut dire que Beurre FM sera présent dimanche prochain à Nanterre.
Je lance aussi un appel pour Nasser Saint-Jacques, s'il pouvait venir, ça nous ferait plaisir.
Alors, si le coach rentre d'Algérie, parce que je sais que je l'ai eu en contact également il y a 3-4 jours, malheureusement, le temps a fait qu'on n'a pas pu se croiser là-bas, mais s'il rentre, eh bien, je lui transmettrai le message. Sinon, je vais lui transmettre un message, tout simplement, via les réseaux. Je sais qu'entre nous, la communication est restée toujours ouverte.
C'était bien vu, Mohamed.
Voilà. Bon, parce que moi, l'important, c'est que j'ai deux émissions, une à 14, une à 18. Du coup, si c'est compliqué pour moi, il y aura quand même quelqu'un qui me représente, en l'occurrence le jeune Fodil qui est ici, qui va faire du très bon travail. T'inquiète pas.
Merci, c'est gentil.
En tout cas, Beurre FM est la bienvenue. On sait que vous avez toujours répondu présent pour toutes les manifestations qu'on a faites et celles qui seront à venir aussi. On compte sur vous aussi pour que vous soyez présents avec nous, parce qu'on sait la portée de votre radio et la portée auprès de la communauté, etc. Et
je peux te dire qu'à Nanterre, l'émission Full de Foot, elle est très écoutée.
Je le sais.
Vous, même si des fois, on n'est pas d'accord. Hein.
Non, mais c'est... Attends. Mais moi, je crée le débat. Je suis là pour ça. Il y a les pour, il y a les contre. Mais heureusement qu'il y a ça. Sinon, si on va tous dans le sens du poil... Ce n'est pas une émission.
Non, c'est un débat.
Ben oui, mais heureusement que le débat existe. Hein. Ça fait partie.
Ce que je peux te confirmer, c'est que même après l'émission,
on continue le débat.
Il continue le débat. Oui, mais il aurait pas dû dire ça, mais ça.
Oui, oui.
Il a raison, il faut dire la vérité, etc. Oui.
Ben, tu sais, parce que tout ça, grâce. Alors, Beurre FM a cette force. C'est devenu une institution dans le paysage audiovisuel français. Nous avons cette liberté. Dans le ton des émissions qui font qu'on est différent des autres. Voilà. Ouais, et mon rôle, c'est justement de vous proposer ce débat contradictoire qui permet à tout un chacun de s'exprimer en toute liberté, on va dire, tout en restant dans le raisonnable. Voilà.
Bien sûr. Dans le respect des uns et des autres.
Absolument.
Mais en tout cas, ça fait nous, notre fierté aussi. Hein.
Ah, ça, je le sais. Je sais que vous aimez cette radio. Elle est là avec vous maintenant depuis une quarantaine d'années et elle continuera avec les générations qui vont arriver derrière nous.
Inch'Allah.
Merci beaucoup, Sofiane. Merci à Ahmed. Et donc, rendez-vous dimanche prochain. On l'a dit, 3 juillet à Nanterre. Alors, on rappelle juste le lieu avant de se quitter.
Alors, c'est au stade Vincent Pascuxi.
Oui.
Au 135 avenue de la Commune de Paris, 92 000 Nanterre.
Très bien. Merci pour l'info et puis bonne fin de préparation pour dimanche prochain.
Merci. Bonne continuation.
Au revoir. Merci.
Merci.
Au revoir. Voilà, on va marquer une première pause dans cette deuxième heure d'émission. C'est vrai que j'avais confondu, je vous l'avoue, j'avais confondu Ahmed Djemaï avec donc mon ami Djemaï Tebbani, qui lui était dans la fédération de rugby. Autant pour moi, la correction a été faite en direct grâce justement à Ahmed lui-même. Et puis, chacun dans son domaine, je sais aussi que les rugbymen font un travail formidable. Il y a même l'un des grands clubs oranais qu'on appelle le Stade Oranais, avec le patron de la fédération qui s'appelle Sofiane, qui est venu ici sur le plateau. Je trouve qu'aujourd'hui, cette génération issue de l'immigration est en train de faire un boulot monstre. Alors, on marque une pause et on se retrouve dans un instant.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Retour sur le plateau de l'émission Foot de sport jusqu'à 20h en compagnie de Faudil. On a parlé depuis tout à l'heure un peu de tout, mais actualité footballistique, jeu méditerranéen. Je rappelle juste maintenant. Pour nos auditeurs, que les matchs ont repris en seconde mi-temps. Voilà, après 63 minutes de jeu, l'Algérie mène toujours 1-0 devant l'Espagne. C'est quand même la première grosse surprise. Et la Turquie mène 2-0 face à la Grèce après 67 minutes. Je pense que d'ici la fin de l'émission, on aura les résultats définitifs. Si l'Algérie venait à battre l'Espagne, ce serait vraiment le premier coup de chaleur sur ces jeux méditerranéens.
Et premier exploit aussi.
Oui, premier exploit, parce que l'Espagne fait partie de ses grands favoris. Hein. C'est quand même une très grande école de formation chez les jeunes. Hein.
Exactement.
Faut reconnaître la valeur du football espagnol. Très bien, on continue.
C'est pas grave.
On continue, Faudil, à parler de ces jeux méditerranéens. Il y a eu cette, comme mine de rien, cette belle cérémonie d'ouverture.
C'est une excellente cérémonie hier. Ce qui fait plaisir, c'est que ça m'a rappelé un bon souvenir. C'est ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la ferveur autour du stade, l'ambiance qu'il y avait autour du stade aussi, la présence de nombreuses personnalités, en l'occurrence Belmadi, le président de la République, le président aussi, le roi qatari. Il y avait une excellente ambiance, une excellente ferveur autour de cette cérémonie. Ce qui fait également plaisir, c'est que ça m'a rappelé le jour de la qualification de la sélection algérienne au mondial, parce qu'il y avait une ambiance. On avait vu la jeunesse algérienne, quand on leur donne les moyens, ils savent vraiment faire plaisir, ils savent faire vivre le pays. Certes, il y a un point qu'il faut signaler aussi, c'est les Algériens, ou même la Fédération algérienne de football, elle n'a pas assez d'expérience dans le domaine de la cérémonie d'ouverture ou dans ces domaines-là, mais ils savent quand même faire plaisir. Hier, il y avait une ferveur immense dans le stade. On avait vu les vidéos, on avait vu des hommages, en l'occurrence à Hasni. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hier, on est retombé amoureux de l'Algérie en espace d'un moment, même si l'Algérie, comme Yasmina Khadra l'avait dit, même si on quitte l'Algérie, elle ne nous quittera jamais.
Ouais. Et ce qui fait plaisir, comme l'a dit il y a quelques minutes Ahmed Jemaï, en gros, quand on a vu ce qu'on a vu à Oran, et ben nous ici, même à Nanterre, à plus petite échelle, on veut toujours faire plus.
Ben parce que c'est la mentalité algérienne. Ouais. On est débattant, on a toujours cette faculté d'avancer, même dans le dur. Et hier, on avait vu des jeunes Algériens, on leur a donné peu de moyens, peu de temps pour organiser cette cérémonie. Et même nous, on ne s'y attendait pas que ça soit aussi merveilleux. Il y avait une ambiance, il y avait une ferveur autour du stade et ça fait plaisir. Et on a retrouvé l'Algérie des couleurs, l'Algérie qui aime le sport, qui prône la diversité, que ce soit l'accueil des délégations, en l'occurrence toutes les délégations qui ont été accueillies, les 26, ça fait plaisir. Et moi, hier... au bout d'un moment, je me suis dit, mais vraiment, merci à la jeunesse algérienne et aux jeunes qui étaient, que ce soit autour, dans le stade. Et j'espère que cette 19e édition de la Coupe des Jeux méditerranéens sera la meilleure de l'histoire. Et pourquoi pas? Et je pense qu'on est bien parti parce que les infrastructures, l'État a mis les moyens nécessaires pour faire face à cette
édition. Grosse enveloppe qui a été dégagée récemment.
Voilà, exactement. Les moyens, la sécurité, ils prônent. Et même les délégations, ils ont toutes les délégations qui sont présentes à Oran ont fait des déclarations, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou à travers les médias. Même les médias, en l'occurrence, hier, j'avais vu la journaliste d'Euronews qui avait dit c'est fantastique, je m'y attendais absolument pas à un tel accueil. Et les Algériens, ils sont connus dans le monde entier pour leur hospitalité, leur accueil. Hier, ils ont eu la preuve que l'Algérie, l'Algérien lui-même est toujours hospitalier, toujours prêt à accueillir son frère. Et malgré plusieurs timbre qu'on a essayé de dire que les Algériens sont pas accueillants ou que les Algériens sont ceci, cela. Et hier, on avait donné une excellente image de l'Algérie en elle-même. Et le sport algérien, espérant qu'il continuera toujours de briller et que ça soit, en plus, pour l'instant, je pense qu'on a les personnalités nécessaires pour développer le sport algérien avec Jamel Belmadi au sein de la sélection algérienne et éventuellement le retour de la Ouraoua pour la fédération de football algérienne pour essayer de bouger les choses aussi.
Il faut savoir également que si on regarde le fond du sujet algérien, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle du réseau, et c'est ce réseau qui permet d'obtenir du résultat. On l'a vu avec l'élimination de la sélection. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce traumatisme post-élimination, même si l'équipe, Jamal, ont repris un peu du poil de la bête avec ses 3 matchs et 3 victoires. Comme il le dit lui-même, Jamal, il le reconnaît, hein, ça n'efface pas encore la déception. On ne peut pas dire que du jour au lendemain, on oublie ce qui s'est passé à Blida.
Oui, c'est difficile d'oublier, mais on le voit aussi à travers les autres sélections. On se rappelle de l'Allemagne. En 2014, ils étaient champions du monde. Et en 2018, ils se sont fait sortir au premier tour. Et par qui? Par la Corée du Sud, avec tout le respect qu'on doit à la Corée, mais ils ne sont pas une nation de football.
Et la Corée du Sud qui a été très dominée par l'Algérie en 2014.
Voilà, d'ailleurs. Exactement. Oui. Et ça, c'est ça la particularité du football. Mm-hmm. Et ce qui est bien avec Jamel Belmadi, c'est qu'il a réussi à créer cette communion en espace même, malgré la défaite, parce que c'est une défaite qui fait extrêmement mal. Elle nous fait mal, même 3 mois après cette défaite, elle nous fait actuellement mal. Mais ce qui est bien, c'est qu'on... On n'a pas oublié cette défaite, mais on a su rebondir grâce à Jamel Belmadi, grâce à son travail, à son staff et aux joueurs qui sont volontaires. Et c'est ça le football. Aujourd'hui, on gagne. On avait gagné en 2019, on était très très contents. Et là, on a perdu cette fois-ci. Et c'est pas grave. C'est ce qui fait la particularité de football. On a une très très bonne sélection avec des jeunes qui sont présents, qui ont envie de faire évoluer la sélection algérienne, de faire briller la sélection algérienne. On l'a vu à travers les 3 matchs. trois récents matchs. C'est difficile de rebondir après une telle défaite, une défaite amère à la 119e minute. On encaisse un but. C'est extrêmement difficile, mais c'est le football. Il faut se relever. Jamel Belmadi a su avoir les mots clés pour motiver ses troupes. Il a convoqué de nouveaux joueurs pour leur donner leur chance. C'est ce qu'on avait reproché à Jamel Belmadi avant. On lui
disait d'avoir une espèce de bloc protégé. Qu'il ne voulait pas modifier sans apporter de son œuvre depuis 2019. C'est peut-être ça aussi qui nous a coûté la qualif. Hein.
Non, mais il ne faut pas dire ça, parce que Jamel Belmadi a peut-être avait ses raisons à cette époque-là. On avait la série de 35 matchs qui nous a coûté le mondial parce qu'on voulait tellement battre.
C'était l'erreur. Alors, il y a eu les 35 matchs, il y a eu la Coupe arabe.
La Coupe arabe.
Elle a joué un rôle important dans notre très mauvaise CAN. On l'a dit avec coach Sanjay Kifi. Tu ne peux pas enchaîner deux compètes comme la Coupe arabe et la CAN, et derrière, tu as un match de Coupe du Monde. Ça a été l'erreur, parce que les mêmes joueurs, tu as six joueurs qui ont fait la Coupe arabe, qui sont venus à la CAN, et ça, on l'a payé cash.
Non, mais là, je suis pas d'accord avec toi, parce que j'ai eu l'opportunité de discuter avec Hafez Dalhadji récemment une interview. Ouais. Et je pense que.
Mais lui, il analyse en tant que journaliste. Hein.
Oui,
mais tu poses la question à un entraîneur, il va. Pose la question à Nasser, tu verras ce qu'il va te répondre.
Mais ce sont des joueurs. Je vais prendre un exemple très simple. Ce sont des joueurs qui sont habitués à prendre 50 matchs par saison.
Pas les joueurs du golf, non, excuse-moi.
Ce sont des joueurs qui sont habitués.
Oui, mais quand tu as. La différence, regarde bien ce qui s'est passé entre la Coupe arabe, c'est le niveau de la Coupe arabe et 2010. Le niveau de la CAN. Oui. Tu vois, le niveau des équipes, c'est pas le même.
Non, mais c'est pas le même. Sauf qu'en décembre, les joueurs n'avaient pas autant de matchs dans les jambes. Mais je pense. Ouais. Je pense que la Coupe arabe, c'était une compétition à part, et la CAN, c'était une autre compétition avec le match face au Cameroun, le match d'appui. Certes, je pense que nous, on s'est fait éliminer sur le terrain, bien sûr avec quelques décisions litigieuses, il faut le dire.
Quasiment complicité, oui.
C'est difficile de jouer face à un adversaire comme le Cameroun, qui avait une très très bonne équipe, avec un gardien des grands soirs, Onana, en l'occurrence, qui a sorti des arrêts de grande classe, il faut le dire.
C'est l'école de l'Ajax.
Voilà. C'est l'école de l'Ajax, il était présent pour son équipe. Il y avait l'arbitre aussi qui avait sifflé des décisions litigieuses, il faut le dire. Le premier but, on voit clairement une faute sur Jamel Belhamri qui ne siffle pas. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ? Pour l'instant, je pense qu'il n'y a personne qui peut répondre à cette question. Il y a la Fédération de football algérienne qui a déposé un recours. Et la semaine dernière, il y avait l'attaché de presse à Boud qui avait dit que nous, on attend toujours une réponse de la FIFA. Pour l'instant, la FIFA se renvoie la balle à la sélection algérienne ou la Fédération algérienne, disant que le dossier est clos. Pour l'instant, c'est le flou total. C'est le flou total.
Et on le voit aussi. Ouais, c'est ça qui est dramatique, attention.
Ce qui est dramatique, et il ne faut pas oublier que nous sommes à 5 mois de la Coupe du Monde. Il y a la Tunisie qui risque, qui semblerait se faire évincer de la Coupe.
Absolument. Est-ce qu'il n'est pas aussi un pays latino-américain à cause d'une histoire de nationalité ?
Le Chili aussi.
Parce qu'on a parlé de l'Équateur, donc un joueur serait originaire de Colombie. Ce qui pourrait bouleverser
même le Chili,
complètement. Ce qui pourrait bouleverser complètement cette Coupe du Monde au Qatar. Donc, c'est pour ça que la FIFA, à mon avis, est en train de tergiverser, de faire attention, même un match à rejouer, genre Argentine-Brésil.
Oui, mais c'est difficile. C'est difficile dû au calendrier, c'est difficile dû aux vacances. Il ne faut pas oublier aussi que dans 15 jours, les clubs vont reprendre la compétition. Déjà, avec la préparation de la saison prochaine qui sera extrêmement difficile et exceptionnelle. Parce que c'est la première fois qu'on va avoir la Coupe du Monde au mois de mars, au mois de novembre.
C'est historique.
C'est historique et c'est difficile, c'est, que ça soit pour les clubs, pour les entraîneurs, pour les staffs techniques. Et il faut appréhender aussi beaucoup de blessures. Et c'est ça ce qui fait la particularité de la saison prochaine. Il y aura des grands clubs qui vont perdre leurs joueurs. En l'occurrence, Manchester City, le Bayern qui a recruté maintenant Sadio Mané avec 40 millions d'euros. Ça veut dire ils doivent le céder pendant la Coupe du Monde. C'est difficile. Le Bayern qui va perdre. Pour l'instant, on ne sait pas si Lewandowski va rester au Bayern de Munich, mais ça m'étonnerait parce qu'ils ont recruté Sadio Mané à cause de ça. Si tu imagines.
Alors donc, puisque faut dire que j'étais absent pour suivre le mercato, donc Sadio Mané a quitté Liverpool pour le Bayern.
42 millions d'euros.
D'accord.
Ouais. Il a quitté Liverpool pour 42 millions d'euros. Et je pense que les dirigeants
bavarois. Excusez-moi, c'est pas cher payé.
C'est pas cher payé. Mais...
Pour un joueur de cette trempe de. de sa, la trompe de Sadio Mané.
C'est la question que je me suis posée quand j'avais vu.
De toi à moi, je suis encore là, abasourdi.
Quand je regarde les performances d'un Sadio Mané, qui a coûté 42 millions d'euros, et quand je regarde les performances d'un Jack Grealish, qui a coûté 135 millions d'euros, je me pose beaucoup de questions.
Ouais. Je suis comme toi. Je n'ai pas de réponse à ça, mais...
Parce que les Sadio Mané, certes, ça reste Sadio Mané, mais c'est lui qui a porté Liverpool cette saison avec Mohamed Salah. Là, ouais. C'est les deux joueurs qui ont porté Liverpool, qui étaient présents tout au long de la saison, qui ont porté les hommes de Jürgen Klopp. Et ce qui est bien, c'est que Sadio Mané a développé la situation dans des matchs extrêmement difficiles.
Ouais. C'est parce que là, j'ai le petit casque qui bouge énormément. Avant de marquer une dernière pause, puisqu'on a quand même après le standard, et un petit rappel. Tout à l'heure, tu m'as parlé dans 15 jours la reprise de beaucoup de championnats.
De la préparation.
Les préparations d'avant-saison, ce qu'on appelle le foncier. Hein. On a joué au foot, on sait ce que c'est que la préparation d'avant-saison, c'est très dur. Tu craches tout ce que tu as dans les poumons. Eh bien, au Maroc, on n'a pas encore fini le championnat.
Oui, au Maroc et en Tunisie aussi.
Ouais. Nous sommes à la 28e journée au Maroc. Et actuellement, alors je vais le dire tout de suite, quoi qu'il arrive, à deux journées de la fin, c'est ça. Donc au Maroc, on a 16 clubs, donc maximum 30 journées à deux journées de la fin. Mathématiquement, il resterait un point au Wydad de Casablanca. Puisque après 28 journées, le Wydad de Casablanca est premier avec 62 points. Le Raja de Casablanca est deuxième avec 56 points. Donc, il y a mathématiquement, c'est si le Raja perd, je ne sais pas moi, c'est par miracle de match, et que le Raja gagne les deux, eh bien, ça se terminera au goal average.
Ouais.
Et pour les places suivantes, ils sont très très loin, notamment... Les phares de la mer royale de Rabat, 42 points. Le Morleb de Fassé, 40 points. Et le FUS de Rabat, 39 points. C'est pour ces clubs, les deux strapontins pour la Coupe de la CAF. Pour l'instant, c'est les phares et le Morleb de Fassé. En attendant également les mises à jour du calendrier. Ça, il fallait que je le souligne ce soir. Les auditeurs, je vous récupère après. Peut-être que oui, tu as raison pour parler de la Tunisie actuellement dans le fameux tour. Sophia,
il y a aussi le match, le derby en Tunisie entre l'US Tunis et le club africain le dimanche dernier. Comme on n'était pas là, il faut faire un petit rappel. C'est l'US Tunis qui a battu le club africain, notamment grâce à Mohamed Lamine Togaï, qui était buteur et passeur décisif malgré l'exclusion d'Abdelkader Bedran.
Deux joueurs algériens, vous le précisez.
Et peut-être Abdelkader Bedran, c'est son dernier match avec les couleurs de l'US Tunis.
Voilà. Alors, tout de suite, à l'heure de jeu, le CS Sfaxien mène 2-0 devant Monastir, l'Étoile du Sahel et le club africain sont à égalité 0 partout. Et l'Espérance de Tunis, pour l'instant, est menée sur son terrain par l'équipe de Gabès, 1-0, la première grosse surprise. Les Jeux méditerranéens, à 10 minutes de la fin. L'Algérie mène toujours 1-0 face à l'Espagne. C'est vraiment les petits Fenech tiennent leur premier grand exploit de ces Jeux méditerranéens. Et la Turquie, pour l'instant, est tranquille avec ce score de 2-0 face à la Grèce. Oui.
La relève est déjà là pour la sélection algérienne.
Ben, pourquoi pas. Mais apparemment, Molas Latine aurait récupéré pas mal de joueurs, de petits gamins issus de l'immigration.
Exactement. Sauf qu'il y avait l'absence de l'Agra, le petit attaquant de l'Olympique Lyonnais.
Oui.
Bon, pour l'instant, on ne connaît pas les vraies raisons de son absence, mais j'imagine qu'il a été retardé parce qu'aujourd'hui, il a signé son contrat pro avec l'Olympique Lyonnais.
C'est très bien. Ça qu'il n'a pas participé. Dernière pause, et puis on récupère nos éditeurs du côté du standard.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport sur Beurre FM.
Allez, dernière partie de ce Fou de sport. Je vous rappelle juste que dans les coulisses, chez nous, notamment dans Fou de sport, comme on est toujours en plein débat, même pendant la pause, on est en plein débat. Ça veut dire que le débat ne s'arrête jamais à Beurre FM. Comme l'avait dit tout à l'heure d'ailleurs Sofiane et Ahmed Djemaï, même après votre émission, on débat de votre émission à l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, moi en tant que présentateur et puis mes chroniqueurs, qui faisons la suite. mais ce sont nos éditeurs qui, après, débattent de cette émission. Merci, franchement, c'est formidable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Réagissez au 01 53 48 3000. Retrouvez toute l'équipe sur Facebook et Twitter.
Juste avant de prendre, normalement c'est Salim, la Grèce a réduit le score à 4 minutes de la fin. Grèce 1, Turquie 2 et toujours Espagne 0, Algérie 1. Salim. Allô?
Allô?
Oui, bonsoir Salim.
Bonsoir Salim.
Bonsoir, c'est Salem.
Ah oui, je me rappelle de Salem. Ah oui, c'est un ancien auditeur de l'émission aussi. Alors Salem.
L'ancien auditeur, après, je ne pouvais pas, pour des raisons professionnelles.
Oui, c'est des choses qui peuvent arriver, direct, Salem. Je sais, ouais.
Direct, voilà. Ouais. Et je vous reproche de ne pas mettre les émissions en podcast comme ça.
Si, maintenant elles y sont. Mes collègues ont fait le travail, hein.
Attendez, j'ai visité la dernière, elle date du mois de mars.
Ah non, mais moi mes collaborateurs ont même présenté les émissions du mois d'avril là, à l'antenne, hein, je suis sûr.
Ben, là on les rejoint, ok, c'est pas grave, ouais. Mais c'est bien, il faut mettre les trucs en podcast comme ça.
Oui. En fait, systématiquement, comment ça se passe, Salem? Je t'explique, hein. Moi, quand l'émission se termine, oui, alors il faut dire, vas-y.
La dernière en date, c'est le 12 juin.
C'était la dernière, c'était le 12 juin.
Je suis actuellement sur le site.
Ouais, merci. En plus, je tiens à remercier Nabil qui fait un travail formidable.
C'est récent parce qu'il y a quelques semaines.
Oui, alors il y a eu peut-être juste, Salem, peut-être il y a eu juste la période du Ramadan. Le Ramadan. Parce que bon, c'était un peu compliqué, une heure d'émission, on récupère avec les écrans, puis bon, on récupère peut-être que 30 minutes, mais depuis, on a repris ce qu'on appelle le rythme normal des émissions, et crois-moi, tous les dimanches, Nabil met ça, enfin, je récupère le dimanche, et en semaine, c'est en ligne, hein, y a pas de souci. Il faut savoir aussi, de temps en temps, remettre les choses à leur place. Abdelkrim, il est à Grenoble. Bonsoir Abdelkrim.
Oui, bonsoir, salam alaikum. Votre collègue, comment il s'appelle?
Je n'ai
pas pensé mon prénom.
Fodil,
ouais, salam alaikum, Fodil. Et puis, je ne sais pas si vous êtes que deux, je crois, il me semble.
Ce soir, on est que deux. Oui. Ben oui, est-ce que les autres sont toujours en vacances, ils rentrent que la semaine prochaine.
D'accord, ok. Par contre, venez dire que vous avez les émissions en replay en podcast, mais sur quel site?
Sur beurrefm.net, directement.
Ouais, directement sur beurrefm.net.
On va sur beurrefm.net et après, on va sur Foodofoot.
Beurrefm.net, ouais. Onglet directement podcast, et ensuite food de sport,
voilà, plutôt, oui. Voilà.
Et la dernière émission en date, c'est le 12 juin.
Ben oui, parce que le 19, je n'étais pas là.
D'accord. Ouais. Ah, ça, c'est une très bonne idée, parce que aussi, je n'en ai pas parlé dans les émissions précédentes. C'est vrai que je voulais aussi dire, c'est dommage qu'on n'a pas de podcast de l'émission.
Ah, plus maintenant.
Maintenant.
Aujourd'hui, Beurrefm est très bien équipé. Avec les nouvelles technologies, toutes les émissions peuvent être écoutées en podcast. C'est très important.
D'accord, ok, impeccable. Par contre, je te rejoins, Mohamed, pour répondre à l'auditeur Salem, personnellement. Comme vous avez dit, c'est une émission pour parler du sport en général, et la politique n'a pas sa place dans une émission comme la vôtre.
Pas du tout, hein, je vous le dis clairement.
Il
ne
veut pas parler de politique, il n'a qu'à appeler les émissions de Beurrefm quand il parle.
Oui, absolument. Dans les différents, tous les jours à 19h, il y a le forum. Hein. Bah oui.
Voilà, donc il n'a qu'à les appeler. Et en plus, je pense que, sans être méchant personnellement, je me souviens que ça fait un moment qu'il n'a pas appelé, mais pour le peu de fois qu'il appelait, il était obligé, en parlant du football algérien, il était obligé de placer un mot politique. Non, faut arrêter. Là, c'est la fête des Jeux méditerranéens dans la super belle ville d'Oran. Donc, je pense que M. Salem est mal placé pour parler de politique dans telle circonstance. Voilà. Ouais. Bon, bref. Comment on dit, on va pas trop s'attarder sur ça. Parce que l'émission, c'est pas e-sport. Alors, moi, ce que je veux dire, j'ai revu, parce que j'ai pas pu voir en direct, la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens 2022. Et franchement, il y a rien à dire. Elle était vraiment bien organisée. Que ce soit au niveau des musiques, que ce soit au niveau des chorégraphies, de tout ce qu'ils ont présenté au niveau de la culture algérienne, et de la belle ville d'Oran. Il y a rien à dire. Franchement, chapeau pour l'instant aux organisateurs.
Ouais. C'est vrai.
Donc, il me semble que le responsable, c'est Monsieur Aziz Deloué, je crois.
Commissaire des Jeux.
De la Fédération de handball, je crois, non?
Oui, absolument. C'est l'ancien. Ancien même ministre des Sports et tout. Absolument. Non, mais Il a été nommé à la hâte. Il a accompli un boulot monstre et il est en train de réussir son pari.
Exactement. Alors moi, je veux juste vous donner une info parce que vous n'en avez pas parlé et elle est récente. Elle date de... On est quand aujourd'hui? On est le 26. Elle date de... Il y a quoi? Une semaine et demie. Hein. Elle date... en plus, elle date d'un site crédible du football marocain, les Lions de l'Atlas.
Oui.
Bon, je ne sais pas si vous connaissez de nom.
Bien sûr.
Oui,
bien sûr.
Vous les connaissez, ça va. Et tu regarderas dans un de leurs articles qui date d'il y a une semaine et demie, il y a 10 jours, le 16 juin. Mmh. Apparemment, suite aux 3 matchs de l'équipe du Maroc, la claque 3-0 en amical contre
c'est
les
ça.
États-Unis,
ouais.
Plus les deux matchs éliminatoires de la CAN qui sont... La prestation était à désirer contre l'Afrique du Sud et surtout contre le Libéria 2-0 seulement, alors que le match il avait lieu à Casablanca. Mmh. Donc apparemment, d'après ce site marocain Lion d'Atlas, ils annoncent que, d'après certaines sources crédibles, que Vaïda Ozik est sur le point de démissionner. Et le président controversé de la Fédération marocaine de football, Fouzi Legja, a été réélu ce vendredi pour un troisième mandat à la Fédération royale de football marocaine.
Ouais.
Et il a fait une déclaration justement après avoir été élu comme quoi par rapport à l'avenir de M. Vaïda Ozik, comme quoi tout était possible. Et surtout, il a annoncé, ça annonce aussi peut-être le départ de coach Vaïd, qu'il fera tout pour que Hakim Ziyech revienne en équipe nationale.
Ouais, parce que, en fait, je me rappelle, je suis abonné à cette page des Lions de l'Atlas. J'avais lu.
Ah ouais, tu connais, Mohamed.
Ben, je connais, j'ai suivi qu'effectivement quelques articles. Ça parlait un petit peu de cette affaire. Et visiblement.
Le récent article qui parle de la démission de coach Vaïd, elle date de 10 jours, le 16 juin.
Oui. Alors pour l'instant, ce n'est pas sorti officiellement, bien sûr.
Ouais. Oui, c'est officiellement, mais avec la réélection de leur controversé président de la fédération, et qui fait une déclaration en disant comme quoi l'avenir du futur sélectionneur n'était pas... Il dit en gros qu'il n'est pas assuré d'accompagner l'équipe du Maroc
absolument.
Et on parle aussi de Villas-Boas.
Juste pour dire une vraie chose, voilà, c'est pour l'équipe du Maroc. Mais je reviens sur ce que vous avez dit sur par rapport à l'équipe de Tunisie.
J'ai entendu parler de Villas-Boas.
Comme quoi, il y avait une menace d'exclusion. Moi, je peux vous garantir personnellement, et je suis sûr et certain de ce que je veux vous dire, sur ce que j'ai lu sur la presse tunisienne, ne vous inquiétez pas, la Tunisie sera bel et bien présente à la Coupe du Monde. Il n'y aura pas d'exclusion. Même s'il y a un problème entre la fédération tunisienne et le
ministère des Sports.
Le ministre des Sports, vous inquiétez pas, pour l'intérêt national, tout va rentrer dans l'ordre.
C'est ce qu'on s'était dit ici. Avec Fodil, c'est ce qu'on s'était dit. Tout finira par rentrer dans l'ordre parce qu'on ne peut pas se permettre d'être exclu d'une Coupe du Monde.
Surtout que c'est une Coupe du Monde, on ne parle pas
bien
de Coupe d'Afrique, Mohamed Fodil.
Une Coupe d'Afrique, à la limite, on s'en fout, mais pas
sur la Coupe du Monde.
On est d'accord.
Vous voyez que, en plus, la salle donne de l'argent aux équipes qualifiées à la Coupe du Monde, une grosse somme d'argent. Donc pour l'image de leur pays et pour l'intérêt national, ça m'étonnerait que tout ne rentre pas dans l'ordre. Franchement, et même pour moi, Franck, je vous dis. Et en plus, je veux vous sortir une autre affaire. Il y a une autre affaire aussi, en plus de l'Algérie-Cameroun, qui a fait parler beaucoup ces dernières semaines-là. Je ne sais pas si vous avez entendu l'affaire de l'équipe d'Équateur qui avait aligné un joueur de
Colombie. On a parlé de ça.
Qui est né en Colombie, pas en Équateur. Que son identité a été falsifiée lors du match retour contre le Chili. Et c'est le Chilien qui a déposé une réclamation à la FIFA pour contester justement le lieu de naissance du joueur d'origine colombienne qui joue pour l'Équateur. Et finalement, il y a eu une enquête de la FIFA dernièrement là. Et puis finalement, la FIFA, elle a validé la qualification de l'Équateur. Et l'Équateur n'a pas été disqualifié.
Ouais, voilà, c'est très bien. Merci Abdelkrim pour tout ça.
Et une chose avant de vous dire, avant de vous laisser, pour faire vite, à la fin. Je tiens juste à dire que par rapport au CHAN 2023 qui aura lieu en Algérie au mois de janvier, Inch'Allah Binlay, je tiens juste à dire, je ne sais pas si vous le savez, mais le stade de Baraké qui sera normalement, d'après mes sources, fini au plus tard fin septembre, il est inclus pour le CHAN. Donc du coup, on aura 5 villes qui organisent 5 stades.
Ouais, j'ai vu le stade.
Le stade de Baraké, j'ai vu les dernières images. Franchement, sans me vanter, ça va être l'un des plus beaux stades en Afrique.
Moi, je l'ai vu en ville aérienne par rapport à
moi. En ville aérienne, mais là,
depuis l'avion, je l'ai vu.
Je peux te dire que c'est vraiment un stade digne d'un pays européen.
Merci Abdelkrim.
Merci Abdelkrim.
Merci.
Voilà, nous avons un autre appel du côté de son heure. Malheureusement, je n'ai pas le temps matériel pour le prendre. Ce sera pour dimanche prochain. Juste un petit rappel, nous sommes quasiment à la fin des deux matchs de ces Jeux méditerranéens. Je ne sais pas pourquoi il y a un tel temps additionnel à ce que pour des gamins, des U18, on est à 90 plus 8 pour Grèce et Turquie, 2-1 pour la Turquie et à 90 plus 5 pour Espagne et Algérie. L'Algérie mène toujours 1-0 en espérant que dans la minute qui suivent, les arbitres vont siffler les fins de match, sinon je ne serai même pas capable de vous donner un résultat définitif. Donc en attendant, bon, alors faut dire, on a passé un bon moment, l'émission a passé très très vite.
C'est un pur plaisir, je suis vraiment flatté d'être là.
Et puis je sais, tu vois que tu prends goût à une émission comme ça, où exactement, quand on arrive, on traite les sujets différemment. On ça a une façon plaisir aussi de les traiter. C'est peut-être ça aussi qui fait la force de Beurre FM, en tout cas aujourd'hui.
Avec plus d'objectivité.
Bon, merci. Eh bien écoutez, si jamais entre-temps j'ai un petit temps d'environ peut-être 15-20 secondes après la dernière pause, eh bien je vous redonnerai le résultat final. Pour l'instant, à 90 plus 6, Espagne 0, Algérie 1 et Grèce 1, Turquie 2. Bonne soirée et à dimanche prochain.